Mes bien chers, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le quatrième dimanche après la Pentecôte. Et pour bien utiliser les textes liturgiques, surtout le texte de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 5 que l'Église nous propose pour ce quatrième dimanche après la Pentecôte, il faut associer ce texte aux lectures du bréviaire de la même époque de l'année. Car ces textes sont complémentaires. Au bréviaire de cette époque, nous lisons l'histoire de Goliath, que vous connaissez bien, et elle s'adapte exactement à notre situation actuelle. Je vous rappelle cette histoire. Donc, les Philistins, ennemis du peuple hébreu, en Palestine, voulut recommencer la guerre et réunir toute leur armée sur le versant d'une montagne. Et le roi Saul rangea la sienne sur le versant d'une autre montagne, si bien que les deux armées se faisaient face, séparées par une vallée où coulait un torrent. Et voici que du camp des Philistins sortit un géant qui s'appelait Goliath, qui portait un casque d'airain, une cuirasse d'écaille, des bottes d'airain sur les jambes, et un bouclier d'airain couvrant ses épaules. Il avait un javelot en bandoulière et brandissait une lance dont le fer pesait 600 sicles. Et ce Goliath défiait Israël en disant: esclave de Saul, choisissez un champion qui vienne se mesurer à moi. S'il m'abat, nous serons vos esclaves. Si je l'abats, vous serez les nôtres. Et évidemment, tout Israël était saisi d'effroi. Et à ce moment-là, le jeune David, qui était un adolescent, il vint chez ses entrefaites au camp, et quand il entendit Goliath et vit la terreur d'Israël, plein de confiance en Dieu, il s'écria: « Qui est donc ce Philistin, ce païen, pour oser insulter l'armée de Dieu, du Dieu vivant? Que nul ne perde cœur en Israël, je combattrai le géant. » Et David prit son bâton, sa fronde, traversa le lit du torrent, il choisit 5 cailloux bien ronds et s'avança hardiment vers le Philistin. Et Goliath, en voyant venir cet enfant, le méprisa. « Suis-je donc un chien que tu viennes à moi avec un bâton ?» Et il le maudit par tous ses dieux. Et David lui répondit: « Je viens à toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, toute la terre saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que ce Dieu sauve. Il est le maître de la guerre et donne la victoire à qui il lui plaît. » Le géant se précipita alors vers David, celui-ci mit une pierre dans sa fronde qu'il fit tournoyer, la pierre s'enfonça dans le front du géant qui tomba tout d'une pièce, le visage contre terre. David bondit alors sur lui et tirant du fourreau l'épée de Goliath, il le tua en lui tranchant la tête qu'il éleva pour le montrer aux Philistins. Eh bien, mes bien chers frères, il est évident que Goliath et la figure du monde moderne. Et nous sommes à peu près dans la même situation que Saul et l'armée d'Israël. Nous sommes complètement paniqués par ce monde moderne et nous avons l'impression que nous ne pouvons rien contre ce monde moderne. Et les pères de l'Église expliquent de manière magnifique ces passages. Et voilà ce qu'ils disent, c'est surtout dans saint Augustin. Les enfants d'Israël se trouvaient depuis 40 jours devant l'ennemi, et ces 40 jours signifient la vie présente, durant laquelle le peuple chrétien ne cesse d'avoir à combattre un Goliath et son armée, c'est-à-dire le diable et ses anges, le monde et ses concupiscences. Et pourtant, ce peuple ne pourrait vaincre si le véritable David, c'est-à-dire le Christ, n'était pas descendu avec son bâton, c'est-à-dire le mystère de sa croix. David, en effet, qui était la figure du Christ, sortit des rangs, prit en main son bâton et marcha contre le géant. On vit alors figurer dans sa personne ce qui plus tard s'accomplit en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ, en effet, le vrai David, venu combattre le Goliath spirituel, c'est-à-dire le diable, a porté lui-même sa croix. Et remarquez, dit saint Augustin, à quel endroit David a frappé Goliath. C'est juste au front où il n'y avait pas le signe de la croix. C'est que de même que le bâton représentait la croix, de même aussi la pierre qui frappa Goliath figurait le Christ, notre Seigneur. D'autres pères disent que les 5 pierres que David a tirées du torrent, 5 cailloux représentent les 5 livres du Pentateuque, c'est-à-dire la force de l'Écriture sainte. Et cette armée d'Israël, c'est aussi, selon les pères, l'Église catholique qui souffre des humiliations terribles que lui imposent ses ennemis. Nous sommes exactement dans cette situation, mes bien chers frères. Nous aussi, nous avons un mal fou à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, sous la forme de David, est plus fort que Goliath. Car notre Seigneur Jésus-Christ est capable d'utiliser un instrument tellement faible que nous serons obligés de voir dans cet instrument le bon Dieu qui travaille derrière l'instrument. Il a utilisé autrefois une Sainte Jeanne d'Arc pour sauver la France et bouter les Anglais hors de France. Sans l'introduction de Sainte Jeanne d'Arc et sans son intervention politique, nous serions tous protestants en France. Mais si le bon Dieu a pu utiliser une jeune fille de 17 ans, complètement analphabète, pour bouter les Anglais hors de France, il peut utiliser une autre Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui. Il n'a pas besoin du nombre. Il n'est pas comme nous. Alors, posons-nous cette question. Est-ce que je crois en la force du Christ? Est-ce que je crois en la force de l'Église? Est-ce que je crois que, de même que Dieu a utilisé un enfant, un adolescent comme David il y a plusieurs milliers d'années, de même aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ peut m'utiliser, moi, comme un instrument, si je suis suffisamment humble pour reconnaître que je ne peux rien sans notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Veuillez, mes bien chers frères, comme cela nous aide à comprendre que c'est le bon Dieu qui fait tout le travail. Et on le voit dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc, chapitre 5. Donc notre Seigneur Jésus-Christ qui va appeler ses apôtres. Les apôtres sont complètement découragés. Pourquoi? Parce que Simon-Pierre lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et notre Seigneur, malgré cela, dit à Saint-Pierre, « Poussez au large et jetez vos filets pour pêcher. » C'est là où on voit la confiance de Saint-Pierre à notre Seigneur Jésus-Christ. Humainement parlant, Saint-Pierre qui est un pêcheur professionnel, qui sait très bien qu'il n'y a pas de poissons dans le lac ce jour-là, qu'ils sont tous cachés je ne sais trop où. Saint-Pierre fait confiance à notre Seigneur. Sur votre parole, je jetterai le filet. Et l'ayant fait, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait. C'est la même image que dans l'histoire de Goliath. David fait confiance à Dieu, et cette confiance à Dieu l'amène à tuer Goliath et à sauver Israël. De la même façon, Saint-Pierre fait confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, accepte de faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui demande, même s'il ne comprend pas, s'il n'aime peut-être pas trop le conseil que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné, et il va faire une pêche miraculeuse. À tel point qu'il dut à ce moment-là demander à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent y remplir les deux barques au point qu'elles étaient presque submergées. Et là, on voit l'humilité de notre Seigneur. Saint-Pierre se jette à ce moment-là au pied de Jésus en disant, « Seigneur, retirez-vous de moi, car je suis un pécheur. » Et Jésus va lui dire, « Ne craignez point. Désormais, ce sont des hommes que vous prendrez. » Ayant ramené les barques au rivage, ils quittèrent tout et le suivirent. Parce qu'ils ont fait confiance à notre Seigneur Jésus-Christ va les appeler, comme notre Seigneur Jésus-Christ a appelé David. Et David est venu prendre la place de Saul. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à son service, chacun de notre côté. Tous, nous sommes appelés à une vocation générale, c'est la vocation à la sainteté. La volonté de mon Père, dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre sanctification. Nous sommes tous appelés à cette sanctification. Mais le bon Dieu appelle certaines personnes, comme David, comme Saint-Pierre, comme les apôtres, à des fonctions plus directement ordonnées au service du bon Dieu. C'est la vocation sacerdotale. Vocare en latin, ça veut dire appeler. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui appelle. Il appelle des gens que peut-être nous n'aurions jamais appelés. Il va appeler des gens qui seront vraiment des pauvres instruments, c'est-à-dire qui humainement parlant, n'ont peut-être pas grand-chose à donner. J'en sais quelque chose. Humainement parlant, je n'avais pas grand-chose à donner. Pourtant, le bon Dieu est venu me chercher pour faire de moi son prêtre il y a 40 ans. Et ce n'est pas par mes propres forces, par mes propres qualités, à cause de mes propres qualités que le bon Dieu est venu me chercher. Non, Il aime justement chercher un pauvre instrument. Et nous sommes tous des pauvres instruments. Vous allez me dire, et je voudrais ici répondre à une objection qu'on entend très souvent, « Même ce l'abbé, aujourd'hui, si un de mes fils, un de mes enfants, un de mes grands adolescents pense à la vie religieuse, pense à la vie sacerdotale, une de mes jeunes filles pense à la vocation religieuse, où l'envoyer ? Où les envoyer ? » Bon, pour les jeunes filles, il y a encore quelques couvents, il n'y en a pas beaucoup, où on peut, je crois, envoyer avec confiance des jeunes filles. Je pense entre autres au couvent de Sainte-Marie-Monique à Cernerpol. Pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Il est évident qu'il y a une telle pagaille, humainement parlant, dans l'Église de Dieu, que je ne sais vraiment pas où je pourrais envoyer un jeune homme qui pense à la vocation. Pas question, bien sûr, de l'envoyer dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui veut absolument être reconnue par l'Église de Vatican II, qui sont prêts pratiquement à trahir, poursuivre notre Seigneur, poursuivre l'Église de Vatican II à tout prix. Il nous faut, mes bien chers frères, être extrêmement prudents aujourd'hui. En conscience devant Dieu, je ne peux pas envoyer, par exemple, un jeune homme qui pense à la vocation sacerdotale, qui pense à devenir prêtre, dans un groupe religieux, par exemple, qui suit les thèses condamnées par Pie XII du Père Finet, qui nie le baptême de sang, le baptême de désir. C'est ce que déjà beaucoup de gens. Je ne peux pas non plus, en conscience devant Dieu, envoyer une vocation éventuelle dans un monastère, dans un séminaire, qui reconnaît le pape Pie XII comme pape légitime, mais qui, dans la pratique, lui désobéit tout le temps, en refusant complètement ses modifications liturgiques, par exemple avec l'introduction de la fête de Saint-Joseph au 1er mai, ou l'introduction des cérémonies de la Semaine Sainte, d'une nouvelle cérémonie de la Semaine Sainte en 1955. Parce que je crois, en tant que prêtre catholique, que le pape est infaillible dans ce domaine. Et donc, comment puis-je, en conscience devant Dieu, envoyer un séminariste qui désobéit tranquillement, ouvertement, à tout ce que demande le pape Pie XII? Ça, c'est un esprit complètement schismatique. Je ne peux pas demander à une jeune vocation de risquer de devenir schismatique. Il faut faire attention, bien chers frères. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous soumettre à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Je pourrais donner plein d'exemples comme ça. D'autres groupes, par exemple, qui sont peut-être très fermes sur certains points, dans la pratique, se permettent d'avoir des interprétations complètement farfelues, par exemple, sur l'Apocalypse, ou renier le message de la Salette, alors qu'il a été reconnu par l'Église catholique. Alors, mes bien fait, chers frères, que faire ? Je dirais une balle dans la tête, complètement découragé ? Non, ce n'est pas ce que le bon Dieu nous demande. Faire confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que si j'avais une vocation actuellement qui se présentait à moi, j'essaierais d'aider peut-être cette vocation à commencer à se former par elle-même, bien que je n'ai pas du tout les compétences pour cela. Se former par elle-même, commencer à se former en espérant que un jour s'élèvera quelqu'un qui puisse justement, après, ordonner prêtre cette personne. Ça, c'est entre les mains du bon Dieu qu'il faut mettre tout cela. Je voudrais aussi utiliser une autre fête que nous avons dans cette même période liturgique pour expliquer ce qui se passe. C'est la fête de la Visitation, 2 juillet. Vous connaissez ce passage? L'ange Gabriel qui venait d'annoncer à Marie que Dieu allait bientôt donner un fils à Élisabeth, sa cousine. Aussitôt, la Vierge Marie se rendit à Hébron, où habitait sa cousine. Et va se présenter à elle. Et l'évangile nous dit que, alors que la Très Sainte Vierge Marie, c'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 1, la Très Sainte Vierge Marie se mit en route, s'en alla en grande hâte vers les montagnes, en une ville de Juda, Hébron. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth, sa cousine. Et voici qu'au moment même où Élisabeth entendait la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, et levant la voix, elle s'écria : Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le fruit de votre sein est béni. Et d'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car je n'ai pas plutôt entendu votre voix qui me saluait que mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et vous êtes bien heureuse d'avoir cru, parce que ce qui vous a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Voilà encore des cas qui, humainement parlant, sont insolvables. L'ange qui était apparu à l'époux de Sainte Élisabeth, Zacharie, lui avait dit que son épouse, bien qu'âgée, enfanterait. Il n'avait pas cru. Et c'est pour ça qu'il est devenu muet pendant toute une période de temps. Eh bien, la très sainte Vierge Marie, Sainte Élisabeth, justement, va voir la toute-puissance du bon Dieu qui va dépasser les lois de la nature pour donner un enfant à Sainte Élisabeth. Et quel enfant, Saint Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. On retrouve exactement la même idée. Le bon Dieu est au-dessus des lois de la nature. Et comme il est tout-puissant, qu'il est Dieu, il peut nous donner justement des instruments pour lutter contre Goliath, pour lutter contre l'esprit du monde. Et c'est ce qu'a fait Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste va venir préparer, par le baptême de pénitence qu'il va donner aux Juifs, il va venir préparer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous faut faire ce qu'a fait Sainte Élisabeth. Elle a cru au message de notre Seigneur. Et par la visite de la très sainte Vierge Marie, c'est la fête de la visitation, l'enfant, Saint Jean-Baptiste, a été purifié du péché originel dans le sein de sa mère. Attention, Saint Jean-Baptiste n'est pas Immaculée Conception. Saint Jean-Baptiste a été conçu dans le péché originel, mais a été purifié du péché originel dans le sein de sa très sainte mère, de sa maman, Sainte Élisabeth. Et lorsqu'il est dit dans le texte de Saint-Luc que l'enfant tressaillit dans son sein, tous les pères de l'Église expliquent cela comme la manifestation justement de la purification du péché originel de l'enfant, Saint Jean-Baptiste. Eh bien, mes bien chers frères, cette fête de la visitation nous rappelle quelque chose d'important, savoir que la très sainte Vierge Marie peut aussi venir dans notre cœur. Elle aussi, elle peut venir nous visiter, comme elle est venue visiter sa cousine Sainte Élisabeth. Donc, de même que notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher Saint-Pierre et ses apôtres, de même que notre Seigneur Jésus-Christ est venu purifier Saint-Jean-Baptiste dans le sein de sa mère du péché originel, de même, notre Seigneur Jésus-Christ peut venir directement en nous, dans notre âme, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toute grâce, pour nous donner des grâces de sanctification, des grâces de combat, pour que nous aussi nous devenions, comme Saint Pierre, comme Saint Jean-Baptiste, des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut avoir le courage d'ouvrir la porte de notre âme et de dire au bon Dieu ce que la très sainte Vierge Marie a dit à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Il y a dans le texte du livre de la sagesse choisi par l'Église pour illustrer la visitation à la très sainte Vierge Marie, cette même image. Le bien-aimé qui parle, lève-toi, levez-vous, hâtez-vous mon ami, ma colombe, ma toute belle, et venez. Levez-vous mon ami, ma belle, et venez. Montrez-vous, montrez-moi votre visage, que votre voix se fasse entendre à mes oreilles, car votre voix est douce et votre visage plein de charme. Eh bien, mes bien chers frères, si nous savons ouvrir le cœur, notre cœur, notre âme, à l'appel du bon Dieu, à l'appel à la sainteté personnelle du bon Dieu, nous allons pouvoir dire ce que la Sainte Vierge Marie a dit, parce qu'elle, elle était complètement, elle a accepté par avance l'intervention du bon Dieu sur son âme. Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur. C'est le Magnificat. Alors mes bien chers frères, au lieu de nous décourager parce que les situations deviennent de pire en pire, est-ce que la situation devient de plus en plus difficile? Est-ce qu'on a l'impression, humainement parlant, que le bon Dieu nous a complètement abandonnés? Eh bien mes bien chers frères, allons chercher la très sainte Vierge Marie. Allons nous réfugier dans son cœur immaculé. Et notre Seigneur Jésus-Christ viendra pour nous chercher dans son cœur. Comme il est venu chercher Saint-Pierre, certes, nous n'en sommes pas au niveau de Saint-Pierre, ni de la très sainte Vierge Marie, mais si nous sommes réfugiés dans le cœur immaculé de Marie, nous n'avons rien à craindre du démon. Et nous serons comme David face à Goliath. Humainement parlant, David n'avait aucune chance contre Goliath, pourtant il lui a coupé la tête. Nous aussi, humainement parlant, on n'a aucune chance, puisque nous avons tout contre nous. Combien y a-t-il de prêtres et d'évacantistes, non ou nakum, dans le monde entier? Dites-moi un peu. Quelques dizaines? On a l'impression qu'on est tout seul, mais on a notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Et si nous avons notre Seigneur Jésus-Christ avec nous, alors, mes bien chers frères, nous n'avons rien à craindre. Alors demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous obtenir ses grâces, ses dons de force pour savoir nous battre, et ses dons de sagesse pour savoir comprendre les choses telles que le bon Dieu les comprend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.